du Trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
Politique publique avec Patrick Derry. Patrick, bonjour.
Salut Benoît.
Est-ce que ça se peut que le premier ministre Legault, et on pourrait le comprendre, ne sait plus quoi dire pour donner confiance puis donner espoir aux Québécois?
Ah, absolument. Mais l'erreur, c'est qu'il pense qu'il faut toujours qu'il donne des bonnes nouvelles. C'est ce qu'il essaye de faire depuis le tout début de la pandémie. On se rappelle des « ça va bien aller ». Et des nombreuses lumières au bout du tunnel, aussi des nombreux « c'est sous contrôle » quand ça ne l'était pas. Moi, j'en ai recensé plus d'une vingtaine, là, juste pour les « c'est sous contrôle ». Le tunnel, ça commence à faire plusieurs fois. Donc, hier, encore une fois, M. Legault est revenu sur l'allégorie du tunnel. On est sorti du tunnel. Bon, M. Legault dit ça et on venait d'ajouter 85 morts.
Mmh.
Les hôpitaux débordent encore à des niveaux qui... à part pour les deux dernières semaines, ça n'avait jamais été vu depuis le début de la pandémie. Puis même, en 100 ans, là, probablement la dernière fois là, qu'il y avait de semblant de réseau hospitalier qui était aussi débordé que ça, c'était probablement à l'époque de la grippe espagnole. Il manque encore des milliers de soignants, 12 000 pour la COVID, mais plusieurs milliers d'autres employés dans le réseau de la santé manquent pour d'autres raisons. Donc des soignants, mais aussi d'autres employés dans le réseau. Il y a des milliers d'opérations qui ont été reportées. Il y en a d'autres qui vont être reportées parce qu'on est encore bien au-dessus de 3 000 hospitalisations. Et surtout, ce qui était un peu indécent, c'est le facteur principal de la baisse des hospitalisations depuis une semaine. Peut-être une baisse, là, c'est relatif, là, parce que quand tu es en haut de l'Everest puis que tu descends là, de quelques centaines de mètres, là, tu es encore haut en tabarouette puis tu es tombé, tu sais.
Ouais.
On avait un peu plus de 3 400 hospitalisations il y a une semaine. On est rendu à un peu en bas de 3 200, donc ça a baissé d'environ 140. Mais la plus grosse partie de cette baisse-là, c'est des morts.
Hein?
On a eu 334 décès depuis une semaine, là, rapportés à la journée même, là, selon les données de l'INSPQ. Même si tu enlèves les décès qui sont survenus en CHSLD puis en résidence, et on sait qu'une partie de ces décès-là quand même eu à l'hôpital, tu as quand même au-dessus de 200 morts, donc plus de morts qu'il y a de baisse des hospitalisations. Donc, c'est vrai qu'on a moins d'entrées des hospitalisations, mais on a moins de sorties aussi pour les mêmes raisons, parce que les cas sont en baisse. Mais on est encore dans le tunnel, puis on est dans le tunnel pour un bon bout de temps.
Mmh. Bon, et on a parlé de l'analyse des eaux usées là, qu'on refuse encore de faire au Québec, mais à un moment donné, en novembre dernier, on le savait là, que ça s'en venait ailleurs, on le savait en tout cas.
Absolument, absolument, pour le variant Omicron et pour évidemment la montée de Delta qui avait commencé aussi, parce que M. Legault dit hier aussi, qui aurait prévu au début décembre qu'on aurait un variant qui nous amènerait au niveau qu'on a vu ces dernières semaines? On savait dès la fin novembre qu'Omicron, c'était excessivement contagieux. Moi, je suis allé voir ce que j'avais posté sur les médias sociaux pendant cette période-là. Donc, dès la fin novembre, j'ai fait quelque chose là-dessus. Le 27 novembre, 61 passagers de retour d'Afrique du Sud testent positif aux Pays-Bas. 61 dans le même voyage.
Mmh.
Tu sais, ça allume des lumières. Le 28 novembre, on avait deux cas au Canada, mais on avait déjà identifié un cas d'Omicron en Chine. C'est un voyageur canadien. Fait qu'imagines-tu, là, quand tu as quelqu'un qui est sorti du pays, qui se fait tester, qui est positif à Omicron, il y avait des maudites bonnes chances qu'il n'y en avait pas juste deux dans le pays. Et à ce moment-là, on avait déjà un paquet de pays d'Europe, d'Afrique et Israël, notamment, où les cas d'Omicron avaient explosé en quelques jours. Quand M. Legault dit qui aurait prévu, je suis désolé, là, il y avait plein d'avertissements, c'est documenté. Amusez-vous à remonter mon fil Twitter fin décembre, début novembre, aussi sur la hausse des cas, sur la hausse des hospitalisations, sur le fait que c'était en train de s'accélérer. Mais qu'est-ce que tu veux?
Mais on voulait pas croire. On voulait pas croire à l'Omicron, là. On avait déjà plein le dos. Puis là, on voulait pas croire à cette mauvaise nouvelle-là. Mais ça, c'est pas une approche scientifique.
Non, puis ça revient à ce que tu disais en entrée de chronique, c'est-à-dire que M. Legault a toujours ce maudit réflexe-là d'essayer, bien, en fait, plusieurs politiciens essaient de dire on a des bonnes nouvelles, puis on le voit aux conférences de presse, on trouve des angles positifs. Mais des fois, il faut dire les choses peut-être un peu plus sobrement. Écoute, moi, je vais t'en donner quand même une bonne nouvelle.
Mm-hmm.
Hein? Le gouvernement du Québec a quand même mis en ligne une plateforme où on va pouvoir rapporter le résultat des tests rapides pour compenser un peu le fait qu'on n'est pas capable de suivre ce qui se passe puisque les tests PCR avec un recensement en bonne et due forme de la santé publique n'ont pas lieu présentement. Mais cette plateforme-là a été lancée hier. Olivier Drouin, lui, de COVID École Québec, qui recense à lui seul les cas dans toutes les écoles du Québec, qui avait battu le ministère là-dessus au départ, a lancé sa plateforme pour le recensement des tests rapides il y a un mois, le 26 décembre. Donc, et lui, il fait ça seul. Là. Il n'y a pas d'armée en dessous de lui. Là. Il fait ça seul. Il fait ça en plus avec le recensement des écoles. Et il vient en plus de démarrer une plateforme pour qu'on ait accès en temps réel aux lectures des taux de CO2 dans les classes pour qu'on sache où il y a des problèmes de qualité de l'air. Donc, un système qui est très transparent. En fait, c'est une espèce de sorte de Wikipédia.
On n'a pas le goût de l'engager, Olivier Drouin, au ministère de la Santé ou à la Santé publique. On va dire, je te donne un bureau, tu vas en faire plus que toute notre armée de fonctionnaires.
Ah, mais attends un peu. Moi, j'aimerais beaucoup entendre les conversations sur ce genre de projet-là qui doit dire, ah, oh, mais mettons qu'on fait ça, puis quelqu'un déclare pas, ou il se trompe, ou il y a une erreur, ou il y a quelque chose, puis là, c'est pas parfait, puis là, il manque de quoi, mais mettons qu'on l'a à l'anneau diable, mais il y a quelqu'un qui oublie de le déclarer, tu sais. On le voit depuis le début, l'état d'esprit là, dans la bureaucratie, c'est de gérer par exception. T'sais, au lieu de regarder une solution qui marche à 80-90%, puis on s'occupera du 10-20% qui marche pas, on va être absolument sûr que c'est 100% ou on le sait pas. Puis évidemment, on rajoute un paquet de processus, effectivement, ben, on le fait pas très bien, on le fait en retard ou on le fait pas du tout.
Bon, et refonder notre système de santé, selon François Legault, la suite.
La suite, écoute, c'est pas fini parce que
un psychodrame.
On a du matériel, mais écoute, tu sais, on disait hier, il y avait un problème d'incitation économique qui est rarement abordé et qui a été abordé par la commissaire à la santé, Mme Castonguay, c'est-à-dire que le financement des hôpitaux ici, c'est des budgets qui sont historiques, hein, un peu discrétionnaires puis sans égard aux besoins, ce qui veut dire que plus de patients, c'est plus de dépenses, mais pas plus de revenus. Ça aide pas. C'est un peu la même chose pour les soins aux aînés dans le sens où on demande d'en faire plus, mais sans que les budgets suivent, par exemple, pour les soins dans les CLSC, mais on récompense pas non plus la qualité ou l'efficacité dans les CHSLD, par exemple, parce qu'il y a des bons CHSLD et il y a des moins bons CHSLD. En Europe, l'argent a un peu plus tendance à suivre le patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Un, c'est que les établissements de santé sont financés selon le niveau d'activité. Donc, tu as plus de soins, tu as plus de patients, ça donne plus de revenus. Fait que le gestionnaire d'hôpital, lui, il trouve ça intéressant d'avoir des patients parce que ses budgets augmentent. L'autre chose, c'est qu'il y a une diversité de fournisseurs publics au BNL et privé, ce qui veut dire que tu as plus de choix. C'est important, ça, parce que ça fait une diversité de solutions, mais ça veut dire que les pas bons, ils finissent par être pénalisés parce que toi, comme patient, tu amènes ton argent ailleurs. Mais ça, on n'a pas ça au Québec parce que les soins sont rationnés. Hein. Tu sais, tu vas où tu peux, tu as des CHSLD, il y en a des bons et des moins bons, mais surtout, ils manquent de place. Fait que donc, qu'est-ce que les gens font la plupart du temps? Ils vont au premier endroit où est-ce qu'ils peuvent aller. Et c'est là que je vais te raconter une espèce de fable. C'était le vilain petit hôpital suédois.
Oui.
C'est l'hôpital Saint-Goran ou Saint-Georges à Stockholm en Suède. C'était un hôpital qui était moribond il y a une vingtaine d'années et le gouvernement voulait le fermer. Et aujourd'hui, il est parmi les 3-4 meilleurs hôpitaux du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui est arrivé, c'est que c'est une décision très audacieuse du conseil de comté de Stockholm parce que la santé là-bas, c'est une compétence régionale. Donc, mettons, Laval gérait sa partie du système de santé pour les opérations courantes. Et ils ont décidé, plutôt que de fermer l'hôpital, de le confier à une multinationale qui s'appelle Capio, aujourd'hui Capio Ramsay, qui est présente dans plusieurs pays d'Europe. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le volume de patients a triplé en 20 ans aux urgences. Donc, c'est un petit hôpital, mais finalement, il y a autant de volume que l'hôpital général juif, qui est celui qui a les urgences les plus grosses au Québec. Ils ont d'excellents indicateurs de qualité sur les soins, sur la satisfaction des patients. Et évidemment, tu as la dynamique du financement de l'activité qui entre là-dedans, c'est-à-dire que plus ils ont de patients, plus ils reçoivent de financement. Ça aide. Mais tu as aussi une motivation du profit. C'est-à-dire que s'ils sont bons, qui sont efficients, qui donnent des bons soins, puis évidemment, ça suppose que le patient, il ne revienne pas trois fois à l'hôpital après pour des soins mal donnés, ils gardent une marge de profit. Donc, c'est une incitation pour ces entreprises-là parce qu'il y en a des multinationales et des grandes entreprises dans les systèmes de santé en Europe et ailleurs dans le monde, mais il n'y en a pas au Québec. Et c'est intéressant parce qu'ils veulent tellement être bons qu'ils dépassent les exigences du gouvernement. Par exemple, le gouvernement en Suède oblige des sondages nationaux une fois par année pour savoir si les patients sont satisfaits des soins. Mais à Saint-Goran, on ne dit pas assez. On va faire des sondages en continu pour avoir vraiment le feedback rapide. Et là, je rappelle, c'est accessible à tout le monde. C'est un système universel en Suède. Donc, l'accès à Saint-Goran ou n'importe quel autre hôpital, c'est couvert par le financement public de la même façon que tous les hôpitaux au pays. Et le bonus, même le syndicat local est content parce qu'il y avait une espèce de guerre entre la gauche et la droite, en tout cas le centre-gauche et le centre-droite, on est en Suède quand même, pour dire, hey, on veut ramener ça dans le giron public, c'est épouvantable, les profits, puis il y a des grandes centrales syndicales qui étaient là-dedans. Et à un moment donné, le syndicat local a levé la main pour dire, hey, excusez, mais c'est parce que nous autres, on est contents. On a les mêmes conditions qu'avant. La gestion est beaucoup meilleure. Il y a moins de roulement d'employés. Il y a moins d'employés qui sont en congé, brûlés, fatigués. Fait que savez-vous, on va rester avec notre méchante entreprise privée. Fait que, il y a une leçon à retenir de ça. Puis, c'est pas un phénomène isolé. Évidemment, en Suède, là, c'est une exception parce que le reste du système ressemble au nôtre, même s'il est plus efficace. Mais il y a eu ce genre de virage-là vers le privé en Allemagne pendant les années 90 où il y a plusieurs hôpitaux qui ont été privatisés, toujours en gardant une couverture universelle. Et les coûts ont baissé, la qualité des soins s'est améliorée. Puis, tu sais, l'attente aux urgences en Allemagne, là, ça n'existe pas.
Mais sérieusement, Patrick, là, ce que tu nous racontes là, il y a matière à réflexion, mais réflexion sérieuse, là, pas un comité qui va dessiner un dromadaire, là, mais une sérieuse réflexion que le ministre devrait d'abord, il devrait avoir l'information, il devrait le prendre au sérieux, puis il devrait sérieusement en discuter. Là, si M. Legault veut revoir une refonte du système de la santé, ben ça fait partie des éléments qu'il doit consulter.
Oui, absolument. Puis on a commencé avec les gros orteils, et là-dessus, je vais lancer une fleur au ex-ministre Barrette, parce que il a fini par se laisser convaincre d'essayer ça dans des chirurgies, des cliniques de chirurgie privées ici, c'est-à-dire qu'en donnant du financement public pour des chirurgies privées, ça élargit l'accès, ça va super bien. Ça coûte un peu plus cher parce qu'en tout cas, il y a des trucs qui sont compliqués là-dedans, puis la durée des ententes notamment, mais à la base, là, c'est assez semblable à ce qui se passe dans le secteur public, sauf que c'est beaucoup plus productif.
Mais là, on a diabolisé le système privé. Même moi, là, tu sais, il y a 20 ans, là, je regardais un topo que j'avais fait sur la médecine au Québec, le système, les deux vitesses, puis j'étais contre le privé. Puis mais à un moment donné, il y a des nuances à apporter dans tout ça. Là.
Exactement. Ben c'est ça. Mais moi, je regarde un système à l'américaine où tu as 30 millions de personnes qui sont pas couvertes.
Tu veux pas ça. Là.
Ça prend une couverture universelle, mais le privé, c'est pas de sortir la carte de crédit, ça veut dire de l'entrepreneuriat. C'est tout ce qui marche bien dans notre vie, là.
Ouais.
Généralement, ça vient pas du gouvernement, ça vient d'entreprise. Puis quand il y a un peu de concurrence, ce qui est super, c'est que les mauvaises entreprises finissent par péter, puis celles qui remontent à la surface puis qui restent, c'est les meilleures. Si on a vu, par exemple, pour les voitures, heureusement que c'était pas fabriqué par le gouvernement canadien ou américain, puis qu'on a eu des voitures japonaises, tu sais, ça a remonté le niveau pour tout le monde. Mais il y a un dogme ici à briser, puis le dogme n'est pas juste en politique, il n'est pas juste dans les bureaux des ministères, qui est présent aussi, il y a une culture au ministère de la Santé, il ne faut pas l'oublier, mais c'est un dogme médiatique aussi, on a tendance à voir ça un peu comme il y a 30 ans, pour arriver en 2021.
Ouais, il va falloir renouveler notre réflexion. Patrick Derry, merci, on se reparle demain.
Bye bye, bonne journée.